Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 5 avec Patrice et Stéphane. L'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie, en Périgord et ailleurs. Patrice, bonjour, ça va ?
Bonjour à vous tous.
Des nouveautés cette semaine, est-ce que tu as quelque chose à nous dire particulier ?
Non, franchement pas. Je te laisse la primeur des actus de la semaine.
Eh bien écoute, déjà pour aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean-Marc Constant, agriculteur sur la spiruline. Nous parlerons des agriculteurs qui s'adaptent, des nouveaux modèles, des modes de fonctionnement du 21e siècle. Mais tout de suite, ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
Il faut réfléchir à tous les modèles possibles, assurent les jeunes agriculteurs de Bretagne. Il faut s'adapter au changement climatique, il faut optimiser l'usage de l'eau, il faut donner aux jeunes les clés pour s'installer. Mais nous en parlons tout de suite avec un agriculteur de chez nous, Monsieur Constant, Jean-Marc Constant, agriculteur de la spiruline.
L'invité de la semaine.
Jean-Marc Constant, bienvenue Jean-Marc à l'antenne de RLP 102.3. Alors Jean-Marc, Razaquois, Périgourdin, agriculteur, ça se dit encore agriculteur ou on peut ou faut changer de nom ?
Non, c'est très bien agriculteur. Donc exploitant agricole aussi.
Agriculteur de notre beau département. Alors agriculteur particulier, Jean-Marc est un fils d'agriculteur. Il est né à la ferme, il est né dans l'exploitation. Et puis, allez, pour faire court, les vaches et les céréales, c'était pas trop votre truc, je crois.
Mais ça le devenait un peu moins. Et m'intéressant à plein de choses, je me suis intéressé à la spiruline.
Pourquoi on doit s'intéresser à autre chose qu'à notre agriculture traditionnelle ?
Parce que une agriculture traditionnelle, on est sur un marché mondial. Et c'est que c'est ce marché mondial-là qui m'intéressait de moins en moins. Et du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à la spiruline, parce que j'avais la main du produit que je cultive jusqu'à la commercialisation.
Alors on est tout à fait dans l'actualité, ça c'est de retrouver un peu l'autonomie, savoir qu'on est capable de prendre des décisions, de faire des choix, de cultiver ce qu'on a envie de cultiver, de ne pas non plus dépendre exclusivement des grandes autorités. C'est un peu ce qui vous a animé ?
C'était le but, reprendre la main. Retrouver la liberté, reprendre la main sur le produit. Avoir toutes les étapes, le choix du niveau de qualité, le choix de commercialiser, le prix de vente, tout, de reprendre cette main-là. Ouais.
Est-ce qu'il y a un intérêt économique de faire autre chose que du bovin et de la céréale ? Est-ce qu'on gagne plus d'argent en faisant d'autres choses ? Est-ce que c'est quelque part une de vos recherches dans l'agriculture de trouver quelque chose qui vous rapporte un peu plus ?
Alors, c'est pas l'appât du gain qui m'a motivé, parce que quel que soit le moyen de commercialisation, le métier, l'agriculture, on peut gagner sa vie ou on peut ne pas gagner sa vie, ça c'est variable. Mais il n'y en a pas un qui rapporte plus que l'autre. Là-dessus, c'est pas ça qui motive.
La spiruline, alors tous nos auditeurs ne savent pas ce que c'est. Est-ce que, en quelques mots, on peut décrire ce que c'est que la spiruline ? Ça ressemble à quoi et ça sert à quoi ?
La spiruline, c'est une algue microscopique qui se cultive en bassin. Donc en fait, je cultive quelque chose qu'on ne voit pas. C'est assez particulier, mais c'est l'effet de masse qui fait qu'on la voit. Donc c'est pour ça que l'eau est verte, parce que l'eau est très chargée en spiruline, celle que je cultive. Et donc, c'est le seul visuel qu'on a, c'est une eau verte.
Alors, on ne la voit pas, mais elle sert à quelque chose quand même, cette spiruline.
Alors, on la cultive, il y a bien une raison. C'est donc pour la santé. Donc c'est extrêmement riche en tout, c'est ça qui est fou. Donc elle contient de tout. Les deux seuls éléments qu'elle n'a pas, donc c'est vitamine C, oméga 3. Mais toutes les vitamines, les oligos, les minéraux, les nutriments, tout y est. Et en plus, tout est assimilable.
Vous en avez amené un petit peu pour nous, là, pour qu'on puisse goûter ?
Je peux en avoir, sans problème.
Non, mais
On n'aura même pas le droit à notre potion magique.
Oh mince.
En vrai, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est gastronomique. C'est quelque chose qu'on consomme plus pour ses vertus que pour son goût. Donc c'est que ça n'a pas grand intérêt d'amener en dégustation. C'est pas un produit qu'on déguste comme ça. C'est pas, on a mangé beaucoup de chocolat à Pâques. Le chocolat est bien meilleur en goût. Mais pour la santé, il n'y a pas à dire, la spiruline restera meilleure quand même.
Alors, on parlait de potion magique, mais est-ce qu'on peut l'en dire, est-ce qu'on peut dire que la spiruline, c'est un peu comme le petit village gaulois que tout le monde connaît? On en prend et on est 10 fois, 100 fois plus fort.
Alors l'avantage, c'est qu'en plus, ça peut se diffuser au-delà du village, on peut la commercialiser plus loin, donc ça peut toucher beaucoup plus de monde, mais c'est un petit peu ça, oui, on est plus fort avec.
En quelles circonstances on pourrait ressentir les bienfaits de la spiruline?
Alors le ressenti est assez variable d'une personne à l'autre, parce qu'on n'est pas tous égaux en fonction des carences, on n'a pas tous le même organisme, et donc le ressenti peut être un petit peu différent, mais les grandes lignes, c'est l'énergie, énergie-vitalité. Donc limiter tout ce qui est carence, des personnes qui peuvent éventuellement avoir des carences, notamment fer, calcium, c'est les plus répandus, donc on équilibre tout ça, et ça a aussi des effets anti-inflammatoires qui peuvent atténuer certaines douleurs articulaires, donc ça a des intérêts aussi de ce point de vue là.
Alors moi je connais parce que j'en entends de plus en plus parler, parce que je fais beaucoup de sport, ça tout le monde le sait, donc dans le domaine du sport, beaucoup de sportifs se mettent à prendre de la spiruline. Alors ils la prennent pourquoi? Pour être plus performant, ou c'est une histoire de mode?
Oh, c'est plus que la mode. Non, il y a un apport en protéines, en fer, ce sont les principaux carburants du muscle, donc il y a un intérêt pour le sportif de ce point de vue-là. Il y a un effet détox qui permet d'éliminer l'acide lactique suite à l'effort, pour tout ce qui est responsable de douleurs, de courbatures, douleurs musculaires. Donc c'est un intérêt pour le sportif, il trouve son contrée.
Alors moi j'ai connu la spiruline il y a déjà quelques années, j'ai découvert d'ailleurs à travers vous, hein, pour pas faire de cachotterie, je suis Razakois aussi, et on s'intéresse quand même un peu à son village, obligatoirement, et j'ai connu la spiruline. Pourquoi j'en ai pris, j'en sais strictement rien, quoi, parce qu'on m'avait dit que c'était bon pour la santé, c'était bon pour le tonus, et puis un jour je me suis senti un peu à plat, j'ai dit pourquoi pas, je teste, et en effet ça fonctionne, il n'y a pas à tordre, ça donne une tonicité et j'ai envie de dire un coup de fouet qui est complètement qui est quelque chose qu'on peut mesurer. Est-ce que un malade, est-ce que quand on est malade de je ne sais quoi, est-ce que c'est bon de prendre de la spiruline? Ça peut nous aider aussi, ça?
Alors là-dessus, il faut être transparent. Je suis pas médecin. La spiruline, c'est pas un médicament. Je guéris personne. J'ai pas cette prétention-là. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, ça peut aider. Alors, certains médecins disent que pendant un traitement un peu lourd, il ne faut pas en prendre parce que ça peut interférer, ça peut... En tout cas, le médecin aime bien avoir un regard sur les réactions de son patient. Par contre, suite à un traitement lourd, pour se remettre d'un coup de mou ou d'un traitement là, qui a été un peu difficile à supporter, ça peut faire du bien, justement, pour se refaire la cerise, comme on dit, pour se refaire l'équilibre. C'est excellent pour ça, oui.
Alors vous voyez, il y a toujours tout et son contraire, parce que j'ai eu l'occasion de croiser des maladies, de vivre avec certaines personnes qui avaient des maladies lourdes, cancer pour ne pas le nommer, et des spécialistes du corps de la médecine disaient que c'était très très bien justement de prendre de la spiruline pour mieux supporter les chimios. Enfin en tout cas c'était l'avis de professionnels, que peut-être tous les professionnels ne partagent pas, mais il n'en est pas moins que ça a pu faire des effets que moi-même j'ai pu constater. Donc la spiruline, on va dire que c'est une micro-algue magique.
Magique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, elle a pleine vertu et ça fait du bien. Et voilà, il faut en profiter. En plus, quand c'est local, c'est formidable.
Et où est-ce qu'on peut la trouver, la spiruline? Bon, chez vous, bien évidemment, à Razak, mais tout le monde ne va pas aller à Razak pêcher la spiruline. Où est-ce qu'on peut l'acheter?
On peut la trouver dans les magasins de producteurs. Les principaux sont les magasins La Périgourdine. Donc en local, c'est Notre-Dame de Saniac, Chancelade. On peut la trouver en Périgueux. J'ai une petite boutique qui revend, qui s'appelle Jardin Lily, au marché couvert. Il y a le coiffeur artistique aussi dans Périgueux, rue Wilson, qui en a. Et donc voilà, on a quelques dépôts comme ça.
Un peu partout sur le département?
Et sur le département, voilà, Sarlat, Nontron, Brantôme, un peu partout, voilà, dans le sud, dans le nord, dans l'est, Hautefort, voilà, il y a plusieurs endroits.
Et si j'étais éloigné, je peux la commander par internet? C'est à la mode, c'est possible ça?
C'est facilement expédiable. Donc ça, j'ai un site internet avec une boutique en ligne.
Ah, très bien.
On peut commander directement sur mon site.
Comment s'appelle votre site? Comment on le trouve?
Spiruline Vallée de Lille.
Très bien, très bien. Donc, on sait maintenant comment s'approvisionner en spiruline. Stéphane, est-ce que tu as des questions particulières sur la spiruline ?
Oh, la spiruline, ce complément alimentaire, ce sont des petites gélules vertes, en fait, dont tout le monde parle un petit peu en ce moment, qu'on prend le matin pour se sentir en bonne santé et remonter un petit peu le corps, c'est ça, hein, ce sont les compléments alimentaires.
C'est consommé comme un complément alimentaire.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on reste attentif là-dessus, c'est bien un aliment. C'est-à-dire que je suis agriculteur, je le cultive et je le commercialise, donc c'est bien un aliment au même titre qu'un radis, des carottes, une salade.
Bien sûr. Oui.
Et c'est que souvent c'est connu sous forme de comprimé. Alors il existe deux formes. Le comprimé, c'est le côté commercial qu'on trouve souvent par la pharmacie. Et moi j'ai les deux formats, le format brandy. Donc le format brandy, c'est le format, on l'a pas mis en forme de brandy par hasard, c'est que pour pouvoir le sécher donc, dans les phases de culture, la dernière étape donc, c'est le séchage, et pour le faire sécher en bonne condition, on le met en forme de spaghetti, donc de brandy une fois que c'est réduit. Donc le format le plus basique, c'est la brandy, et pour ceux qui n'apprécient pas le format brandy, il y a toujours le comprimé qui existe, mais ces deux formats-là sont identiques et se consomment de cette manière-là.
Alors ici, on aime bien parler de tout ce qui est transition numérique. Est-ce que vous utilisez des outils informatiques, technologiques pour être un entrepreneur 2.0 du 21e siècle ? Déjà, je crois que vous avez un site internet.
J'ai même deux sites internet, malheureusement, j'ai un problème, mais j'ai deux sites internet actuellement.
Ouais. Quels sont ces deux sites internet ?
Spiruline, Vallée de Lille.
Oui.
Il y en a un qui est .fr, l'autre .com.
D'accord.
Je vous conseille le .fr.
D'accord.
Marche mieux, mais c'est un problème de technologie pour le coup.
C'est mon métier, on pourra en parler après si vous voulez.
Tout à fait.
Et vous avez aussi une boutique, alors c'est du Shopify, si jamais j'ai bien compris. Vous avez monté une boutique sur Shopify. C'est vous qui avez fait ça tout seul ? Est-ce que vous êtes un entrepreneur qui avait su vous développer par vous-même sur Internet ? Ou est-ce que vous avez fait appel à des prestataires externes pour aller sur le réseau ? Comment vous avez fait ?
Alors c'est un peu la débrouille parce que moi pour le coup tout ce qui est numérique informatique c'est vraiment pas mon truc.
D'accord.
C'est pas mon fort du tout. J'ai plein d'autres capacités mais alors pas le numérique pour le coup.
D'accord.
Et donc.
Mais vous sentez le besoin du numérique dans votre activité, dans votre métier aujourd'hui ?
Une boutique en ligne aujourd'hui c'est indispensable.
Oui.
Même si mon chiffre d'affaires dessus est très faible, faut être honnête, mon chiffre d'affaires est très très faible là-dessus. Mais il faut en avoir une quand même parce que. Un exemple tout bête, si on passe dans un média un peu large, national, eh ben on peut avoir des touches, et si on passe à côté de ces touches, voilà les gens qui sont à Bordeaux, à Paris, je ne sais où,
bien sûr.
C'est utile. Des gens qui voyagent, qui passent en Dordogne, dans un département très touristique, ils visitent ma ferme, s'ils veulent continuer à se ravitailler, ils ne vont pas venir tous les 3 mois ou 6 mois chez moi, donc ils vont se ravitailler par le biais de mon site internet.
Bien sûr, c'est une carte de visite, comme une carte de visite papier, une carte de visite internet.
Alors, il y a la carte de visite, internet, le visuel, qui donne une image de la ferme, oui. Sa propre image à travers un site internet,
oui.
Mais aussi la partie commerciale, du coup, une boutique en ligne.
D'accord. Bon, ok, pour ce point-là, vous êtes nombreux dans votre exploitation ?
Officiellement, je suis tout seul.
Oui, et en pratique ?
En pratique, 30. Je me fais aider.
Ouais,
je me fais
aider familial, d'un stagiaire. C'est ça, on veut dire,
familial,
au niveau familial.
C'est un stagiaire, d'accord. La famille, parents.
Vous n'avez pas des saisonniers ou ce genre de choses ?
Ça ferait pas de mal, j'y songe dans les mois qui viennent. Pour l'instant,
l'entreprise se développe un petit peu. Il y a une croissance qu'on peut voir depuis ces derniers temps. Là où ça,
il y a une belle croissance au début, donc 2019, 2020, oui. 2021, une très belle croissance.
Vous êtes créé en quelle année ?
2019, j'ai
d'accord.
été producteur.
Donc là, vous avez passé la troisième année.
J'ai passé les 3 premières années. J'ai passé le Covid.
D'accord.
Et
la troisième année est difficile généralement. Vous, ça va ? Ça n'a pas été trop.
La troisième année, je l'ai pas senti difficile parce que j'étais en progression.
D'accord.
Le pouvoir d'achat était là, donc les gens étaient au rendez-vous.
D'accord.
Donc je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. Les habitudes commençaient à être prises, donc c'était plutôt bien. La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est cette inflation qu'on subit tous. Et donc le pouvoir d'achat des clients, parce qu'on parle de vente directe. Moi, je m'adresse à mes clients directement, je n'ai pas d'intermédiaire.
Oui, c'était une question aussi. Comment est-ce que vous êtes distribué quand vous trouvez votre clientèle ? Vous avez constaté, vous avez des matières premières à acheter, des produits qui ont augmenté ?
Oui, mes deux grosses dépenses sur les matières premières, donc ça va être les intrants, ce qu'on appelle les intrants, ça va être ce qui nourrit la spiruline.
D'accord.
Donc ce sont des engrais.
D'accord.
Et ensuite, c'est l'emballage. C'est les deux points pour la cultiver et la commercialiser, donc la nourrir et l'emballer. Après, mes grosses dépenses, c'est la structure, en fait. C'est la ferme qu'il a fallu monter.
Oui.
Donc c'est les charges de structure. Et celles-ci, maintenant, elles sont calées, elles sont fixes, puisque j'ai construit en 2018-2019.
Les emballages, il vous faut des gélules, des boîtes en carton et puis des boîtes en plastique.
C'est ça, emballage carton, d'accord. Plastique, tout ce qui est étiquetage. Et
ça, emballage. Vous le trouvez en France ou
j'ai trouvé un bel emballage biodégradable fabriqué en France pour les comprimés. Pour les brindilles, c'est pas encore ça. Je cherche toujours, mais les seuls emballages que j'ai trouvés qui sont dits biodégradables, en fait, ne le sont pas. Ils ont l'appellation parce qu'ils sont biodégradables à 51%, mais ça n'empêche qu'il y a toujours 49% qui ne sont pas biodégradables. Et en plus, ils ne sont pas adaptés à la spiruline, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la lumière ou ils laissent passer l'humidité. Enfin, ça ne va jamais. Donc, sur les comprimés, j'ai trouvé. Sur les brindilles, je n'ai pas encore trouvé.
Vous êtes sensibilisé à toutes ces problématiques de biodégradables, d'environnement et autres. C'est quelque chose qui est présent dans votre métier.
C'est un produit que je cultive, qui est naturel, qui s'adresse à des clients qui sont en recherche de bien-être, de santé. Donc c'est vrai que le côté emballage naturel, santé, environnement est important. Oui.
Très bien, merci.
Alors Jean-Marc, moi je voulais aborder un sujet qui fâche surtout le consommateur, parce que le consommateur, il n'y comprend rien. C'est que la spiruline, on en voit à 2 balles, on en trouve à 2 balles, c'est-à-dire à un prix défiant toute concurrence. Une spiruline, j'ai envie de dire, de qualité comme la vôtre et les autres, hein, mais de qualité, on est plutôt dans les 20-25 euros le sachet. Hein, de mémoire, le sachet de
100 grammes.
100 grammes. Donc c'est, mais on trouve de la spiruline à 5 euros, 6 euros, les 100 grammes. Enfin, c'est tout. Je ne veux pas me faire Jean-Pierre Coff, hein, mais j'ai envie de dire, c'est quoi cette merde, quoi? Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas... que fait l'État, normalement, avec ses services vétérinaires? Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas... Il n'y a pas une entité qui est capable de nous dire ça, c'est de la merde, ça coûte pas cher, mais c'est normal, c'est labellisé, c'est de la merde, et puis ça, c'est de la haute qualité, et ça coûte un peu cher. Pourquoi c'est aussi bordélique ce marché de la spiruline aujourd'hui?
C'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. L'ANSES avait fait un rapport en 2018-2019, de mémoire, qui est bien, mais qui est lisible. Il est très long à lire, donc personne n'a pris le temps de le lire. Qui conseille du coup de consommer de la spiruline du producteur local du coin, qui était mieux que celle qui venait de Chine. Bon, mais jusque-là...
ça nous fait une belle jambe.
Ça fait une belle jambe, voilà. Donc du coup, c'est pas facile de s'y retrouver. Un repère toute bête, déjà si elle est marquée bio ou le logo, la feuille, donc un fond vert avec une feuille, un feuille d'arbre, je parle. Ça, c'est logo bio hors Union Européenne. C'est à fuir. Donc voilà, c'est
Très chose, bonne information.
Ça, c'est à fuir.
Oui, c'est le bio espagnol, quoi.
Chinois, même.
Chinois, ah oui, oui.
Majoritairement chinois.
Bien sûr, bien sûr. On s'entend bien.
Avec le risque de pollution métaux lourds, le bilan carbone qui va avec. Et puis en plus, la culture qui est très médiocre. Séchée à haute température, donc elle est cuite, elle a perdu ses propriétés. Donc c'est pas facile de s'y retrouver pour le consommateur. Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais même si on y va par confiance dans une parapharmacie, ben on pourrait être très déçu, on est souvent très déçu, parce que ben souvent, le pharmacien qui se ravitaille, il va chercher une sécurité, donc un certificat que peut lui apporter un laboratoire, que moi je suis pas forcément, moi j'ai pas monté de dossier de dingue, j'ai pas de laboratoire qui bosse pour moi, donc j'ai pas tous ces documents-là à apporter. Et on se retrouve du coup à acheter une spiruline qui vient majoritairement du continent asiatique, pas très bonne qualité, et en plus chère, parce que y a des commerçants, des intermédiaires entre temps, donc le prix est monté. Donc ça, c'est pas facile d'y retrouver, et c'est vrai que moi je dis toujours d'aller chercher un produit chez le producteur. C'est pour ça que ma ferme est ouverte tous les vendredis après-midi, pour faire des visites, pour faire découvrir, et j'ai bien conscience que les gens ne peuvent pas venir en permanence chez moi. Donc l'idée, c'est qu'ils viennent une fois à la ferme chez moi pour découvrir, ils voient que c'était fait en confiance, de qualité, et ensuite ils peuvent se ravitailler dans mes points de distribution, chez d'autres commerçants, ou sur Internet. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est pas facile de s'y retrouver, et donc même le terme bio ne garantit pas une qualité en plus.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auditeurs qui ont compris que le label bio ne veut plus rien dire à aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de bio différents, avec des réglementations différentes, ne serait-ce qu'en Europe. Hein, quand on voit en Espagne tout ce que l'Espagne peut produire sous label bio, et quand on sait dans quelles conditions et quelle merde ils nous envoient, c'est pas possible à aujourd'hui de ne pas être au courant que le bio, c'est devenu du market.
On a souvent des produits bio importés qui sont de bien moins bonne qualité, qui est dans lesquels rentrent des matières actives interdites en France, dans le conventionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on a des produits conventionnels en France de meilleure qualité que du bio étranger. Alors c'est vrai qu'on se plaint souvent de notre réglementation française qui est trop stricte, c'est compliqué. Et c'est vrai d'ailleurs. Il n'empêche qu'elle nous apporte quand même une sécurité alimentaire qui est énorme.
Alors, il y a cette importance, je reviens sur cette question de quelle est la spiruline de qualité, parce que N'oublions pas qu'à la base, si on prend de la spiruline, c'est qu'on a envie, on a besoin de bénéficier de tous ces bienfaits, sans quoi il n'y a aucun intérêt de prendre la spiruline, parce que c'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon. Enfin bon, on va pas se faire.
C'est pas gastronomique.
Voilà, on va pas se faire un petit plaisir en se disant tiens, je vais me prendre un bonbon à la spiruline, parce que là on sera un peu déçu. Donc c'est pas du plaisir, c'est vraiment de dire. C'est une micro-algue qui a plein de vertus, donc ces vertus, ben, elles sont à l'intérieur. Donc si la micro-algue a été cultivée de façon industrielle ou de façon, j'ai envie de dire, peu scrupuleuse des intérêts de la finalité, c'est d'apporter du bien-être, en fin de compte, ça sert à rien, quoi. D'en prendre de la mauvaise qualité.
Ah ben tant qu'à faire que d'en prendre, autant prendre la bonne, c'est sûr.
C'est ce que je voulais dire. La synthèse, c'est prendre de la spiruline à 5 euros ou à 10 euros à aujourd'hui. C'est, abstenez-vous, quoi. Ça sert strictement à rien de l'acheter.
Voilà, elle était cuite, elle était séchée aux températures.
Elle a perdu tous ses pouvoirs.
Une grosse partie de ses nutriments et de ses minéraux, ce qu'elle peut nous apporter. Donc c'est du vin, en fait. C'est une poudre verte qui nous apportait strictement rien.
Ça, il reste de la couleur verte.
Donc voilà. c'était le petit quart d'heure Jean-Pierre Coff, mais qui avait cet intérêt qui est de dire oui, la spiruline, c'est comme tout, si on la consomme, c'est pour attendre de cette micro-algue plein de vertus, plein de vitamines, plein de choses dont on a besoin. Donc si c'est pour l'acheter bradé et de mauvaise qualité...
Ah bah on a ce qu'on achète, on a ce qu'on paye, hein, clairement, ça correspond généralement à ce qu'on dépense. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est que même des fois, on la paye cher et ça ne garantit pas un gage de qualité, autant.
C'est encore plus embêtant, ça, par contre.
Ouais. C'est vrai. Mais autant que je peux concevoir qu'on peut acheter des bonbons, on peut acheter un gâteau de merde, industriel, bien sucré, bien, parce que ça nous fait plaisir dans la bouche. Bon, même si on sait qu'on bouffe de la merde, mais ça nous fait plaisir dans la bouche. Alors que là, avec la spiruline, on n'aura jamais de plaisir. Donc c'est pas le plaisir gustatif, c'est, j'ai envie de dire, le plaisir de se faire du bien, de faire du bien à son corps. Donc de par ce fait, allons à l'essentiel et achetons de la spiruline qui soit de qualité pour en avoir, pour en récolter les fruits, quoi. Non ?
Dans la spiruline, le plaisir est ailleurs.
Voilà, belle formule.
Alors, par contre, il faut quand même corriger, c'est pas non plus mauvais à ce point-là. C'est quelque chose qui est assez neutre en goût. C'est pas le goût, c'est pas gastronomique, mais c'est un goût n'est pas très prononcé. En fait, le problème, c'est la texture. C'est un produit qui est déshydraté, donc quand on le met en bouche, il a tendance à se réhydrater, donc ça devient un petit peu collant. Donc ça colle dans la bouche verte.
Je suis un peu plus critique que vous. Très honnêtement, je dirais que la spiruline, on pourrait avoir, pour ceux qui ont déjà tenté, hein, parce qu'il y a des petits curieux et d'autres qui ne le sont moins, c'est un peu comme si on bouffait des trucs de poisson, des aliments déshydratés à poisson. Ça a ce petit goût déshydraté, hyper salé, hyper pas bon, quoi. Sauf que, je vous rejoins, pour ceux qui ne veulent, ou qui sont sensibles, en tout cas, à cette texture, vous avez les cachets, tout simplement. Vous prenez un cachet, vous l'avalez, et puis on a le goût de rien dans ces cas-là, quoi.
Le cachet, on l'avale comme n'importe quel comprimé. Alors par contre, du coup, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas juste un comprimé. Pour avoir la quantité recommandée, il faut en prendre plusieurs, donc on est entre 4 et 6 comprimés qu'il faut prendre.
Quand on sait pas quoi faire, on se prend un ou deux comprimés et puis.
C'est une facilité de prise, mais l'inconvénient c'est qu'il faut en prendre plusieurs.
Bon, on en prend plusieurs, mais enfin en tout cas c'est pas là pour le coup on peut dire qu'il y a pas d'odeur, il y a rien, donc c'est complètement transparent. On revient donc sur la qualité, je pense qu'on en a bien parlé. Bon, puis j'ai envie de dire que c'est comme tous les produits. Tous les produits d'artisans, quoi. Je veux dire que si on veut de la qualité, il faut mettre le prix, sans quoi c'est pas la peine, faut pas l'acheter. Ou alors dans ces cas-là, faut faire le choix, acheter de la merde et partir dans de l'industriel, surtout de l'industriel pas français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à aujourd'hui pour un agriculteur qui serait tenté peut-être de vous copier, si tenté ce soit, c'est pas interdit.
Le soleil se lève pour tout le monde, c'est pas interdit, non.
Ça demande un gros investissement de se lancer dans l'aventure.
Et bien là aussi, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se lancent de briques et de broc, ce que moi je déteste, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas de sous, ou parce que souvent c'est un état d'esprit. Moi j'ai voulu au contraire chercher donc toujours la qualité, donc j'investis énormément. C'est pour ça que j'ai un modèle économique qui est très particulier. Les banques ne voulaient pas me suivre au départ parce que justement j'investissais énormément pour un petit chiffre d'affaires. Et donc du coup, c'était un frein au départ. Donc j'ai monté une petite ferme dans lequel j'ai voulu mettre le concentré de tout ce qui peut apporter la qualité. Donc l'aspect économique était secondaire dans le premier temps. Et donc c'était un peu la difficulté du début du projet, réussir à convaincre les banques, les artisans, tout le monde de me suivre.
Et c'est vrai que c'est très spectaculaire. Et c'est vous avez des fermes de spiruline, que je ne citerai pas, que j'ai vues en France, où vous avez des trucs, des tubes en caoutchouc, enfin du bricolage, voilà, c'est du bricolage, quoi. Bon, alors je ne dis pas que la spiruline, elle est mauvaise, hein, c'est pas ce que je dis, mais enfin, ça fait un peu du bricolage de garage, quoi, ou de fond de cour, hein. Et puis vous avez une ferme, vous avez complètement construit une ferme, je la connais, je l'ai visitée plusieurs fois. Donc on est vraiment dans deux domaines complètement différents, entre le bricolage de fond de cour et la vraie ferme, avec des investissements. Je ne veux pas vous demander combien, ça ne me regarde pas. Enfin, on imagine bien que c'est des investissements. Comment vous allez vous y retrouver avec des investissements forts comme ça ?
Ben c'est en essayant d'avoir la confiance de mes clients et leur fidélité. Et c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est quand on a un client qui était déjà consommateur de spiruline avant, qui dit « Moi, je sais que c'est dégueulasse, la spiruline, j'en mange. Mais bon, je sais que c'est bon pour moi, donc j'en prends. Mais la vôtre, par contre, c'est vrai que ça n'a rien à voir. La vôtre, on peut la manger sans problème. On sent vraiment qu'il y a une différence. Ben, c'est ça qui fait plaisir. C'est ce discours-là du client qui fait plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a deux écoles dans la culture, les fermes de briques et de broc et les autres, c'est qu'on n'a pas de normes officielles. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas de label de qualité, il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est difficile pour le consommateur de s'y retrouver, puisqu'il n'y a pas de label. Et en même temps, il n'y a pas non plus de cahier des charges officiel qui fait qu'on est obligé d'investir dans ceci ou dans cela. C'est libre cours du producteur. Donc c'est pour ça que moi, j'ai choisi d'avoir une salle blanche, un local aux normes alimentaires, du matériel inox, des matériaux aptes au contact alimentaire, des protocoles d'hygiène. Alors c'est vrai que ça peut être comparable à la cuisine. La cuisine, on peut très bien faire la cuisine dans un garage, dans un taudis. Ce sera pas mauvais pour autant. Mais c'est que c'est pas rassurant de voir qu'on manipule des aliments dans un endroit qui est pas très propre. Mais voilà, moi c'est l'inverse. J'ai voulu un local qui soit plutôt propre, quelque chose qui soit... Ça paraît être simple, ce que je dis, paraît être basique, mais vu que c'est pas obligatoire, c'est pas le cas partout.
Oui, c'est tout. Je pense que c'est tout le problème de la spiruline à aujourd'hui, c'est que comme il n'y a aucune norme, quelle qu'elle soit, ou alors s'il en existe, elles sont un peu exigeantes, que tout est possible et tout est son contraire. Tout est son contraire. Et c'est ce manque, j'ai envie de dire, quelque part, de format, de réglementation qui fait que, au niveau du consommateur, on sait plus quoi penser. On sait plus quoi penser. J'ai envie de dire que la vraie réponse dans ces cas-là, c'est il faut s'intéresser au producteur. Il faut regarder de près qui est le producteur. Il faut acheter du local, tant qu'à faire. Et puis, si possible, aller visiter le producteur et regarder comment il travaille, tout simplement.
D'autant plus que c'est une curiosité. La spiruline, en principe, personne n'a vu ou ne sait comment ça se cultive. Donc, du coup, c'est marrant d'avoir des gens qui se déplacent, qui font l'effort de venir jusqu'à la ferme, qui s'attendaient à voir des tiges, des feuilles, je sais pas, des choses du végétal, et qui en voient un bassin avec une eau verte, sous serre, sans tige, sans feuille, vu que c'est microscopique, on n'a pas tout ça à voir, quoi, en visuel.
Donc Jean-Marc Constant, agriculteur du 21e siècle en 2023, quel a été votre parcours ? Vous êtes né agriculteur, vous êtes enfant d'agriculteur, vous avez décidé pourquoi d'être agriculteur ?
Donc mes parents et mes grands-parents étaient déjà agriculteurs avant moi. D'accord. Donc je suis né en effet sur une ferme. D'accord. Une ferme typique du département, donc de l'élevage vache à viande, un peu de céréales. Et c'est vrai que donc, je me suis installé en 2008 et j'ai voulu j'ai fait beaucoup de syndicalisme d'ailleurs, on n'est pas là pour les politiques, mais j'ai fait un peu de syndicalisme agricole. Mmh. Et du coup, dans mon parcours, je me suis intéressé à autre chose qu'aux vaches. J'ai repris les vaches parce qu'elles étaient sur la ferme, mais ce n'est pas ma grande passion. Donc je me suis intéressé toujours à autre chose. Et en cherchant sur autre chose, par hasard, je suis tombé sur la spiruline.
Parce que la question qu'en fait sous-jacente derrière, c'est en 2023, lorsqu'on entend tout ce qui concerne le monde agricole, ça a été comment trouver une filière, un débouché qui soit mieux, qui soit moderne, qui fonctionne bien. Ça a été, donc vous avez une approche sur le haut de gamme, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la spiruline par rapport à ce que traditionnellement votre famille faisait ?
Moi, la motivation, c'est donc quitter le marché mondial. Donc le but, c'était sortir de cet surempilement de réglementations européennes et françaises. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont inutiles d'ailleurs. Et maintenant, je suis le premier milité à dire qu'il n'y en a pas assez en spiruline, et dire qu'il faut en rajouter parce que je pense qu'il y a trop de laxisme là-dessus.
Bon. Pour ces deux dernières minutes, Jean-Marc, si la spiruline est bien partie, demain, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, il n'y a plus de minutes, là, on va
non,
être coupé.
Il n'y a plus de minutes du tout, là, on va devoir y aller.
Je savais qu'on était bavard.
Bon. Et bon, en tout cas, c'était Jean-Marc Constant avec nous, agriculteurs à la Spiruline. On va redire le nom du site internet.
Spiruline Vallée de Lille.
Spiruline Vallée de Lille. Bah, écoutez, n'hésitez pas, allez-y. Il y a un beau site web et des produits de qualité qui viennent du Périgord. Pat, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés. Doré à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.